Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Nous sommes de retour en ondes, chers auditeurs. On est en ondes pour une chronique qui va nous être présentée par Noémie sur la maternité chez les élus municipaux.
Oui, merci beaucoup, Enzo. Donc, on a finalement trouvé une solution pour pas que le micro soit coupé à moitié, à croire qu'on veut pas m'entendre aujourd'hui. Mais j'ai trouvé une solution, fait que vous aurez pas le choix. Donc, c'est ça, là, ça fait beaucoup jaser là, en ce moment dans les médias, là, les voix là, des jeunes élus municipaux qui résonnent de plus en plus fort là, dans les couloirs du pouvoir québécois, là, portant avec elles une revendication d'équité là, en matière de congé parental. En effet, là, lors d'une conférence avec la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforêt. Le réseau des jeunes maires au municipal récemment pris la parole plaidant pour une révision urgente de la loi avant les élections municipales de 2025. La porte-parole du réseau et présidente là, du comité exécutif de la ville de Sherbrooke, Laure Letarte-Lavoie, qui est actuellement là, enceinte de 37 semaines, comme on vous disait dans l'introduction, là, a soutenu avec force là, que les 18 semaines de congé parental auxquelles elles ont droit là, en tant qu'élue municipale, c'est vraiment archaïque. Là. Elle a d'ailleurs souligner là, que la durée du congé là, qui date là, de 1979 est inadaptée et injuste comparativement là, justement aux 50 semaines de congé offertes aux mères québécoises là, en vertu du régime québécois d'assurance parentale, le RQAP. Fait que la situation actuelle là, pose réellement là, un réel défi en fait là, qui, pour les élus municipaux, notamment en ce qui concerne là, la maternité et la poursuite de leurs responsabilités dans le domaine politique. Et il est essentiel de comprendre là, que les congés limités à 18 semaines là, ne permettent toujours pas là, aux mères élues de concilier les obligations professionnelles avec les besoins de leur famille naissante. Le réseau des jeunes mères au municipal là, a formulé 4 recommandations concrètes là, afin de remédier à cette problématique. On a dans un premier temps l'extension du congé parental à 50 semaines là, au même titre que les autres travailleuses. Sinon, il y a également des mesures d'accommodement qui sont demandées là, à deux niveaux, soit la participation à distance là, aux séances du conseil, comme ça a d'ailleurs été le cas là, pendant la pandémie. Fait qu'on n'arrive pas avec quelque chose de nouveau. Sinon, il y a également le fait que qu'il y ait la délégation là, du vote des élus qui sont partis en congé de maternité. Là, le vote par procuration là, serait exercé pendant leur absence par un autre membre du conseil municipal. Ensuite, la quatrième proposition, c'est la création d'un fonds national pour l'embauche de soutien temporaire aux élus absents, ce qui permettrait là, l'octroi d'un soutien administratif à une conseillère devenue maire afin d'assurer le suivi des dossiers avec les citoyens. Là. Quand on compare, est-ce qu'on se console? Non, pas vraiment. En fait, ça met vraiment en lumière là, le fait qu'il y a peut-être une petite problématique là, avec les élus municipaux là, qui sont proches de nous, avec d'autres juridictions là, qui mettent en lumière là, des pratiques plus inclusives et adaptées là, aux réalités des maires élus, là, notamment en Ontario avec le Municipal Act qui permet là, le vote par procuration. Et sinon, là, à Montréal, il y a également là, des élus en congé parental qui bénéficient là, d'un soutien administratif pour continuer à répondre aux besoins des électeurs. Pratiques là, qui font d'ailleurs partie là, des recommandations faites par le réseau. Bref, on comprend vraiment qu'il y a une nécessité là, d'une réforme législative afin d'assurer l'équité réelle entre maternité et engagement politique municipal, qui est indéniable. Là, je tiens tout de même à souligner là, un élément important, là, le fait que la rencontre là, entre le réseau des jeunes maires municipales et la ministre Laforêt témoigne d'une ouverture là, au dialogue et d'une volonté d'écoute. Là. En effet, les déclarations de satisfaction des deux parties reflètent l'espoir là, d'un changement imminent. Là. Je sais pas, chez vous les gars, vous êtes moins touchés directement par ça, là, mais je ne sais pas si vous voulez discuter un petit peu là, des enjeux entourant la conciliation famille et fonction électorale des maires.
Ben, je pense que c'est un sujet ouais, qui est quand même important et beaucoup plus important que ce dont il peut avoir l'air. notamment en règle d'égalité et d'équité homme-femme, en fait. Car je pense qu'en 2024, la question ne peut plus se poser, quoi. Ça ne peut plus être possible qu'une femme réfléchisse à sa carrière ou au choix qu'elle va faire, ici c'est en politique, parce qu'elle pourrait avoir un enfant ou tomber enceinte. Enfin, s'il n'y a pas d'adaptation, si le système ne s'adapte pas à travers des congés ou à travers des aides au fait que à la grossesse des femmes, il y a un vrai décalage, parce que comme je l'ai dit, ça va faire en sorte que tout un tas de femmes qui voudraient se lancer dans la politique ou réaliser un certain nombre de métiers, ne le feraient pas, soit y réfléchiraient, soit feraient des enfants plus tard ou n'en feraient pas, ou au contraire n'iraient pas en politique parce que ça serait impossible. Donc en fait, ça réduit la liberté en quelque sorte des femmes à faire ce choix-là, et donc une plus grande accessibilité à un congé de grossesse ou des aides liées à ça, ou une aide ou des congés pour les mères et les jeunes mères en politique. Je pense que ouais, c'est quand même primordial, même si ça paraît un petit sujet comme ça, mais c'est quand même assez important, même pour les jeunes mères qui viennent d'avoir un enfant, avoir un congé maternité, des aides, une structure pour les accompagner, c'est très important, je trouve.
Oui, définitivement. Puis, tu sais, moi, je me souviens, là, j'avais justement là, fait un travail là-dessus, là, de recherche, là, dans le cadre d'un projet universitaire. Puis, on avait vu vraiment le fait que pour les femmes en politique, pas seulement, là, on parle du municipal, là, mais de manière générale, là, au Québec, au Canada, il y a beaucoup de difficultés pour les femmes à s'impliquer là, dans la politique, parce que souvent, quand un homme décide de s'embarquer dans une carrière politique, c'est la femme qui va vraiment plus s'impliquer au niveau familial. Parce que souvent, c'est un métier qui prend beaucoup. Versus quand c'est une femme, en fait, il n'y aura pas nécessairement le sacrifice qui va se faire là, du côté son conjoint, sa conjointe. Fait que c'est un enjeu qui est très, très important à aborder. Puis comme tu le disais si bien, là, Enzo, ça paraît simple, ça paraît pas simple, mais ça paraît comme logique, mais c'est quand même vraiment quelque chose d'assez gros là, parce que on sait très bien que souvent le rôle revient à la mère là, de plus s'assurer là, que toutes les fonctions familiales, pas toutes les fonctions familiales, mais tout est bien organisé dans la famille pour que personne manque de rien. Fait qu'il y aurait vraiment là, aussi une redistribution là, à faire là, au niveau des tâches là, que chacun a dans un couple, surtout pour les femmes qui décident d'aller en politique. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de sacrifices là, à faire, puis sacrifices qui sont pas les mêmes que pour les hommes.
Ben, effectivement, puis... je crois que c'est ce qu'on appelle le care, c'est ça, ou le soin. Tu sais, les femmes ont beaucoup plus de temps de travail, mais un travail qui est pas un travail de profit pour une entreprise là, mais c'est du travail quand même, mais du travail
tâches
de
ménagères,
ouais, les tâches ménagères, ouais. S'occuper des enfants,
les mettre au lit, les laver, c'est, les salles, c'est ça. Les lunch, c'est ça, c'est vraiment comme une problématique, en fait, de redistribution aussi des tâches là, qui sont inéquitables souvent dans les couples. Tranquillement, ça semble vouloir se placer dans certains cas, mais il reste beaucoup de travail à faire encore. Puis là, quand on parle de personnes, de femmes qui sont impliquées dans le milieu politique, la charge pour, par exemple, son conjoint devient encore plus grande. Fait que c'est, oui, il doit prendre une part de manière générale, mais dans ce cas-là, c'est de prendre peut-être là, le rôle principal qui revient plus souvent, là, malheureusement, aux femmes.
Ouais, c'est clair, puis ça crée une vraie inégalité, hein, comme tu le dis, sur la question du temps, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des études... J'ai pas le nom des études exactes sous les yeux, mais c'est un sujet sur lequel je m'étais renseigné. Puis il y a des études qui prouvent que dans des couples hétéros, là, l'homme à la fin a beaucoup plus de temps libre que la femme au sein du couple, parce qu'elle aura beaucoup plus de temps, comme on le disait, à faire tout ce travail. Ce travail familial, ce travail aux côtés des enfants, et en fait surtout les mères. Hein. Et en fait, déjà dans le couple sans enfants, il y a déjà ce rapport-là. qui se retrouvent, le couple sédentaire qui habite ensemble, on retrouve ce problème de temps, où l'homme va avoir beaucoup plus de temps que la femme, parce que la femme est beaucoup plus prise sur les tâches ménagères, toutes ces choses-là. Et là, en l'occurrence, ta chronique, c'est sur les mères. Et sur les mères, c'est encore plus vrai, parce que on se rend compte que c'est plus la femme qui s'occupe des enfants, de les emmener à l'école, toutes ces choses-là. Donc l'homme aurait beaucoup plus de temps libre. Donc c'est toute une structure aussi sociale qui... Et c'est avec ce genre de mesures qu'on peut déconstruire aussi... avec ce genre de mesures, en réfléchissant, en fait, au rapport qu'ont les mères dans leur travail, puis ici, en l'occurrence, dans la politique. Et c'est en réfléchissant à comment on change ces structures, à comment on s'adapte, à plus d'équité au sein du couple qu'on peut impacter ces inégalités-là aussi.
Exactement. Puis tu sais, c'est un sujet que ça fait pas si longtemps qu'on met de l'avant.
Non, c'est vrai.
Fait que selon moi, tu sais, il y a, je suis quand même vraiment optimiste dans le sens où est-ce que il va sûrement avoir peut-être une équité réelle en la matière de des tâches quotidiennes là dans un ménage, que ce soit pour un couple. Là, on parle de couple hétéro, mais on peut aussi extrapoler là dans tous les types de relations là, mais nécessairement là, il y a souvent une personne qui va prendre un petit peu plus le lead que l'autre, mais là c'est de rendre justement là les tâches, c'est de rendre vraiment la tâche là divisée en deux plutôt que trois quarts, un quart ou toutes les portions que vous voulez là qui sont inéquitables.
Oui. Effectivement, ouais, non, c'est mais en même temps, puis aussi la famille, tu sais, c'est une structure en soi, parce que là on parle aussi dans le couple ou quoi, c'est une structure en soi, puis le rapport à la famille, enfin la famille est corrélé aussi avec le système économique, le système dans lequel on vit, donc les deux vont évoluer ensemble. Donc,
ouais, définitivement. Puis tu sais, c'est ne pas c'est aussi prendre en considération qu'il faut pas laisser de côté l'éducation de l'enfant.
Ah, complètement.
Fait que tu sais, c'est comme oui, on restructure, mais on n'enlève pas ce qu'on fait déjà de bien.
Ouais, puis aussi attendre aussi de l'État, je pense aussi certaines choses comme dans l'éducation nationale ou toutes ces choses-là, ça pourrait aussi venir de là aussi bon, je suis pas en train de faire un programme politique là, mais je sais pas moi, ou des plus de crèches qui seraient collectivisées pour les parents qui travaillent à deux, ou une plus grande accessibilité pour les crèches ou les lieux où on s'occupe des enfants. Peut-être que crèche, c'est un mot qu'on dit en France, c'est peut-être pas le mot
mais
ici.
Mais on comprend aussi.
C'est quoi ce qu'on dit?
C'est qu'il y a des garderies.
Les garderies, ouais. Pour enfants qui, des fois aussi, sont dans les grandes villes, sont pas forcément accessibles pour les couples plus modestes. Donc, c'est toutes ces structures-là aussi qui peuvent déterminer tout ça. Parce qu'un couple qui peut pas faire garder son enfant, bon, bah là, la question se pose. Puis, encore une fois, ça va être souvent la femme, culturellement, qui va s'en occuper, alors que si on redéfinissait ça, s'il y avait plus d'accessibilité aussi, et plus de structures qui peuvent aider les parents et les couples à s'occuper finalement des enfants, pas remplacer l'apport que eux ont pour leurs enfants, mais un appui, une aide, une structure en plus, ça pourrait aussi faciliter les choses. Et comme on en parlait ici, une aide pour les femmes qui dans certains corps de métier, ou là en l'occurrence pour la politique, pour les femmes qui se lancent dans la politique, toutes ces structures là qui pourraient aider à déconstruire tout ça aussi.
Je suis bien d'accord avec toi. Et merci beaucoup d'avoir participé.
Avec plaisir. Est-ce que vous aviez quelque chose? Oh, ouais, pardon.
Non, mais je voulais juste dire, parce que j'ai volé le micro à Marc-Antoine, il ne peut pas participer. Mais bon, merci beaucoup.
C'est avec plaisir. Un sujet très intéressant. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter avant qu'on...
Moi, ça va. Je pense que ça faisait le tour.
Je voulais juste dire, c'était très intéressant ta chronique, justement. J'étais allé à une conférence dans le cadre d'un cours, justement. Et la conférencière parlait justement de ça, du fait que c'était très difficile parce qu'il n'y avait pas de congé, notamment. Là. Puis la conférencière, c'était quelqu'un qui était en politique aussi. Là. Fait qu'à la naissance de son premier enfant, comme quitter le monde politique pour prendre soin de son enfant.
Oui, exactement. Puis c'est ça, dans le domaine politique, c'est à un autre niveau parce que l'implication est tellement grande. Puis ça doit être le cas dans d'autres domaines, mais là, je parle en connaissance de cause du fait que j'étudie là-dedans, puis que j'ai eu la chance de parfois avoir des stages ou rencontrer des femmes dans le milieu politique. Je souhaite justement que, oui, là, ça se passe au municipal, là, mais je souhaite qu'il y ait... une restructuration peut-être là, à grande échelle à ce niveau-là, parce que, comme je disais, le travail universitaire que j'avais fait, moi, c'était plus de manière globale. En fait, c'était au niveau de l'Assemblée nationale. Les écarts étaient grands, mais on parlait pas nécessairement.
Et on est donc de...
C'était auto-coupé, Enzo.
Ouais, excusez-moi, je me suis fait manger la parole par le générique. Je l'ai pas vu venir, excusez-moi. Ouais, désolé, pas concentré. Ça arrive. Je le remets pour la forme. Et voilà, on est de retour en ondes. Merci de nous écouter, chers auditeurs. On est de retour en ondes pour une chronique de Marc-Antoine sur les manifestations pour la démocratie au Mexique. Je te laisse y aller.
Merci,
Enzo. J'ai hâte d'entendre.
Donc, oui, effectivement, dimanche dernier, il y a eu des manifestations pour la démocratie au Mexique. Ce qui est important de savoir, c'est que le Mexique est actuellement en pré-campagne électorale. On est à 8 jours. Du début de la campagne officielle pour la présidentielle. Ça sera le 1er mars, l'ouverture de la campagne. Ces élections présidentielles sont prévues le 2 juin, en même temps que les élections législatives et locales. Ce qui est particulier au Mexique, c'est que tous les types d'élections ont lieu en même temps. On est assuré d'avoir fort probablement une nouvelle chef d'État. Je vais expliquer pourquoi après. En raison que le président actuel, Andrés Manuel López Obrador n'a qu'un mandat de 6 ans tel qu'inscrit dans la Constitution. Cette nouvelle chef d'État sera soit Claudia Sheinbaum ou, excusez-moi de la prononciation, je le dis tout de suite, les noms mexicains, c'est pas...
Je suis un petit peu déçue. Ah, c'est pas vrai.
Xochitl Galvez... qui sont respectivement première et deuxième dans les intentions de vote. D'ailleurs, à titre indicatif, si on cumule leurs intentions, ils obtiennent 95 % des intentions de vote totales. Le troisième candidat, Jorge Alvarez Maynes, a 5 % des intentions de vote. Ce qui a déclenché les manifestations pour la démocratie au Mexique, c'est les récentes actions de M. Obrador. M. Obrador bénéficie d'une légitimité populaire importante, environ un peu plus que la moitié de la population l'appuie, depuis son élection en 2018. Sauf que ses dernières actions ont soulevé l'ire de la population parce qu'il y est question d'une révision constitutionnelle. En ce qui concerne ces changements, le premier est une réforme de l'Institut national des élections, créée en 1990, dont la principale mission est d'assurer la tenue et le respect des processus électoraux. Le deuxième concerne l'élection au suffrage populaire des membres du pouvoir judiciaire. En réponse à ces changements proposés, la population vêtue de rose, qui est le symbole de l'Institut national des élections, s'est mobilisée et a manifesté sur Zocalo, la place de la Constitution, pour exprimer son mécontentement. À la grandeur du pays, il y a eu 90 000 personnes qui ont participé aux manifestations organisées par les partis d'opposition. Les manifestations ont eu lieu la même journée que la dauphine de M. Obrador, Claudia Sheinbaum, a officialisé sa candidature auprès de l'INE. Pour ce qui est des principaux engagements de Mme Sheinbaum, qui est une scientifique de formation d'ailleurs, elle a promis de poursuivre les principaux engagements de celui qu'elle considère comme son mentor, tant au niveau économique que social. Elle bénéficie actuellement de 64 % des intentions de vote, en partie grâce à la popularité du président. Mme Galvez, qui représente une coalition des trois principaux partis d'opposition au Mexique, Parti de l'Action nationale, Parti de la Révolution démocratique et Parti de la Révolution institutionnelle, Elle a enregistré sa candidature auprès de l'INE hier et elle a 31 % des intentions de vote. Mme Galvez s'est montrée plutôt critique de M. Obrador, notamment en raison de son ingérence dans les élections, par ses récentes réformes, tout en dénonçant la tolérance de son gouvernement envers les crimes organisés et ses groupes présents dans le pays. C'était mon portrait. Si jamais vous voulez ajouter de quoi, vous êtes le bienvenu.
Ben moi, ce de quoi je suis étonnée, c'est justement que tout se passe en même temps. toutes les élections, comme tu dis, là, dans le fond, législatives et locales, là, ouais, c'est ça. Ça doit être tellement de gestion pour eux.
Oui, ben dans un cours sur l'Amérique latine que j'ai suivi durant ma formation, pour les dernières élections en 2018, c'était autour de, il me semble, c'était pas loin de 18 000 mandats qu'il fallait renouveler la journée même.
Mais tu sais, je sais pas si c'est par rapport à nous qu'on est habitué que ce soit séparé, là, mais il me semble que, tu sais, déjà juste y aller en les divisant, en les faisant pas tout en même temps, c'est un travail assez gigantesque, là, fait que j'imagine même pas pour eux.
Et ici, c'est comme si on avait que des législatives, vu que c'est le premier ministre, le chef d'État.
Oui, c'est vrai, j'avoue.
Mais c'est vrai que dans d'autres pays, genre, je vois en France, il y a les élections présidentielles, puis les élections législatives plusieurs mois après. Puis des fois, c'est un petit peu une évaluation, tu vois, le parti au pouvoir, le parti a été au pouvoir quelques mois. Si les Français en sont déjà critiques, ils vont voter pour une opposition législative ou ils vont l'appuyer aux législatives. Le fait d'avoir les deux en même temps, ça peut aussi éviter ça. Ça peut faire en sorte que le parti qui a été voté au présidentiel soit directement soutenu aux législatives, qu'il y a une corrélation directe. En fait, je sais pas, faudrait qu'on aille vérifier, mais qu'il y a une corrélation directe entre le vote législatif et présidentiel.
De ce que j'avais lu un peu ce sujet en prévision de la chronique, généralement, si au présidentiel, traditionnellement au Mexique, il y a toujours un parti plus dominant, voire hégémonique, qui sort des élections gagnantes. Et ça va se poursuivre aux législatives, comme c'est le cas actuellement pour le parti de M. Obrador Morena.
Bon.
Puis ça marche aussi beaucoup par coalition, des fois, plus aux législatives qu'aux présidentielles.
Ah d'accord, donc on ne trouve pas exactement les mêmes proportions de votes aux législatives ou aux présidentielles.
Non, c'est ça. C'est que, historiquement, les trois partis d'opposition que j'ai mentionnés dans ma chronique, généralement, forment une coalition.
OK.
Soit aux législatives ou aux présidentielles.
Et concernant la population, est-ce qu'elle est autant politisée aux deux élections ou il y a une abstention qui serait plus grande, par exemple, aux législatives ou aux présidentielles?
Je sais que le taux de participation aux présidentielles 2018 était quand même bon. Là. Ça tournait autour d'une cinquantaine de 50% à peu près, un peu plus même. Pour les législatives, j'ai pas connaissance, j'ai pas vu de chiffres exactement.
Ce que je me disais, est-ce que le fait que ça soit en même temps, justement, il y a une corrélation entre les deux sont aussi importantes l'une que l'autre? Je sais qu'en Europe, les législatives, des fois, sont un petit peu moins considérées par la population que les élections présidentielles. Donc,
J'ai pas vu exactement la différence entre les deux. Hein.
Bon. Si c'était... est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter?
Non, vas-y, j'allais remercier Marc-Antoine. Okay. Je ne pensais pas que t'avais une question ou une intervention.
Bon. merci bien, Marc-Antoine. Ouais. On va pouvoir vous quitter avec une courte page de musique. Et on se retrouve pour une entrevue avec Madeleine Pastinelli, qui travaille pour le qui nous parlera du documentaire, la série documentaire Faculté en alerte pour la Fédération québécoise des professeurs d'université. Merci, chers auditeurs, on se retrouve dans quelques minutes.